chapitre 34. 2 octobre 1998, 15h09. Marc leva les yeux. Les lettres lumineuses du panneau d'affichage se mélangèrent comme les lettres d'un jeu de Scrabble électronique. Paris, Caen, quai 23. Une bonne partie de la foule, jusqu'alors immobile dans la salle des pas perdus, se précipita vers l'étroit quai 23, comme autant de grains colorés entraînés dans le goulot d'un sablier. Marc avait appris qu'on pouvait caser plus de 1000 personnes dans un train, la population moyenne d'un chef-lieu de canton. Pas étonnant alors cette foule dans la salle des pas perdus. 2 ou 3 trains annoncés en retard et c'était plusieurs milliers de voyageurs debout sur les quais. Comme ceux du Paris-Rouen, dont la voie n'était toujours pas indiquée. Marc regarda son téléphone. Il fallait qu'il continue ses appels aux cliniques, suivre sa seule piste pour retrouver Lily, aussi infime soit-elle. Sa main hésita entre le téléphone et le cahier vert, mais la curiosité fut la plus forte. Il pouvait bien se donner quelques minutes, lire encore quelques pages. Grand-Duc avait-il réellement trouvé un témoin du crash du Mont-Terrible ? Journal de Crédule Grand-Duc. Les nuages venaient de Suisse. C'était plutôt rare. Après des années d'expérience, je commençais à maîtriser la climatologie locale du Haut-Jura.
« Georges est mon petit frère »,
expliqua Augustin Pelletier.
« Il a toujours été plus fragile que moi. Une personnalité compliquée. On était très différents. Quand il a commencé à fuguer de la maison à Besançon, il n'avait pas 14 ans. Il traînait avec les bandes du quartier. Les policiers le ramenaient à mes parents. À la fin, Georges a été placé 2 ans en établissement spécialisé. Rien n'y a fait. »
Je tapotais avec mes mains sur les accoudoirs de mon fauteuil. Où l'Augustin voulait-il en venir ?
J'arrive à l'épisode du Mont-Terrible, monsieur Grand-Duc.
Fit Augustin qui avait dû percevoir mon impatience.
N'ayez crainte. À 16 ans, Georges a définitivement quitté la maison. Je ne vous fais pas un dessin. Il dormait dans la rue, alcool, drogue. Il dealait aussi, un peu. Rien de bien méchant. Il était tout simplement devenu clodo. On dit SDF maintenant. Il était connu sur Besançon avec quelques autres. Mes parents ont renoncé. Moi aussi. À l'époque, j'avais un travail, une femme qui ne voulait plus entendre parler de lui. Vous pouvez imaginer ce que c'est, hein, monsieur Grand-Duc. Pas facile d'inviter un junkie au réveillon de Noël. »
Mes doigts continuaient de danser sur les accoudoirs, mais Augustin ne les regardait plus, ou faisait semblant.
« Je gérais comme je pouvais, » continua-t-il. « Je conservais une espèce de lien indirect, par les services sociaux, par la police aussi. Georges ne voulait pas d'aide. À chaque fois que j'avais tendu la main, j'avais pris une claque. Enfin, tout comme, si vous voyez ce que je veux dire. »
Je voyais. Et je m'en foutais. Je le montrais. Abrège, Augustin.
J'y suis, monsieur Grand-Duc. Nous gardions toujours quelques nouvelles de Georges, avec des périodes plus ou moins longues où il disparaissait. 1 an ou 2 ans ou plus. En mai 1980, j'ai perdu définitivement sa trace. Georges avait alors 42 ans. Il en paraissait au moins 15 de plus. Plus aucune nouvelle depuis 8 ans.
Je n'y tenais plus. Les nuages blancs suisses s'accrochaient à la ligne de crête, jouant à cache-cache avec le Mont-Terrible. « Monsieur Pelletier, quel est le rapport avec moi ? Quel est le rapport avec le 23 décembre, avec l'accident ? » ?»«
J'y suis. J'étais terriblement inquiet. Vous ne pouvez pas imaginer. Aucune nouvelle. J'ai fait mon enquête auprès des autres SDF de Besançon. Ce n'était pas facile. Mais bon, je vous passe les détails. Ils ont fini par me lâcher que Georges était parti se mettre au vert. Il en avait marre du trottoir. Il y avait surtout pas mal de types à Besançon qui cherchaient à le coincer. Des mauvais deals, si vous voyez, des types de la police aussi, hein ? Vous voyez ?
Je voyais.
Ils m'ont dit que la dernière fois qu'il avait donné des nouvelles, il vivait dans une cabane en pleine nature, dans la montagne, à la frontière suisse. Le Mont Terrible, ça s'appelait. On en avait beaucoup parlé à l'époque, à cause de l'accident. Voilà. C'est la dernière fois que j'ai entendu parler de mon frère. C'était il y a près de 7 ans maintenant. J'ai fouillé pendant des mois, sans succès. Depuis, j'ai plus ou moins abandonné les recherches et l'espoir de le revoir un jour aussi. Ça n'a pas traumatisé ma femme, vous vous en doutez. Mais quand j'ai lu vos annonces, 7 ans après, ça m'a fait un choc. Je me suis dit, pourquoi pas? Si quelqu'un continue de chercher à comprendre ce qui s'est passé là-haut cette nuit-là, peut-être qu'indirectement, il aurait pu tomber sur la trace de mon frère. Augustin avait terminé sa tirade. Mes mains s'accrochaient aux accoudoirs du fauteuil comme un capitaine à la barre de son trois-mâts. Mes yeux recherchèrent l'horizon lointain à travers la vitre, les cimes arrondies, là-haut, maintenant perdues dans le brouillard. Et si ce Georges dormait dans la fameuse cabane, cette nuit du 22-23 décembre 1980? Et si ce Georges était ce que je n'avais jamais espéré, jamais même recherché en 7 ans d'enquête? Un témoin direct de la catastrophe. Et si Georges avait été le premier sur la scène du drame? Et si Georges l'avait trouvé le premier à côté du bébé miraculé, la fameuse gourmette de Lise Rose? Et si Georges avait creusé cette tombe? Les questions me vinrent spontanément. Georges possédait-il un chien? Augustin afficha une mine ahurie. « Remets-toi, Augustin, » faillis-je lui glisser. « Ça fait 7 ans que je bosse sur l'affaire. » « Oui, un bâtard marron et court sur pattes. Pourquoi ?» Je prenais déjà des notes au dos d'un prospectus posé devant moi. « Et il fumait quoi ? Comme cigarette, je veux dire, votre frère. » « Des gitanes, je crois, sans certitude. » « Il chaussait du combien ? » ?»« Je dirais 43 ou 44. » « Il buvait quoi comme marque de bière ?»« Comme bière ? Alors là, aucune idée, vraiment. » Augustin semblait ne plus suivre. Il arrêta le jeu. « Mais, monsieur Grand-Duc, pourquoi toutes ces questions ? Vous avez retrouvé Georges ? Mort, c'est ça ? Vous avez retrouvé son corps ? » ?»« On se calme, Augustin. » Monique Genevèse, impeccable dans son rôle d'hôtesse, nous apporta du thé et des gâteaux secs, genre spéculoos, mais en version jurassienne, plus épais et plus long. Augustin n'y toucha pas. Tout en grignotant pour deux, je lui racontai tout, ma découverte l'année précédente, la cabane, les mégots, la tombe. Augustin Pelletier fut presque déçu. Je n'avais découvert aucune trace concrète de son frère. Je le rassurais tout en trempant mes biscuits dans le thé bouillant. Je ne pouvais pas lui affirmer que j'allais retrouver son frère Georges, encore moins que j'allais le retrouver vivant. Mais je lui assurais que j'allais y consacrer toute mon énergie dans les mois suivants. Je ne mentais pas. J'allais le serrer de près, mon seul témoin potentiel. Augustin avait bien fait de se taper le voyage depuis Besançon. Il avait gagné un détective privé à temps plein, sur la trace de son frère, tout frais payé par Mathilde de Carville. Et pas le moins borné. Il me laissa sa carte. Il était responsable clientèle à la Société Générale, à Besançon. Je lui promis encore une fois de faire tout mon possible. Cette nuit-là, je ne dormis que quelques heures. Un peu à cause de l'excitation, beaucoup à cause de la bouteille de vin d'Arbois que j'avais bu pour fêter la nouvelle la veille au soir, suivi de quelques godets de vin de paille, pour bien marquer le coup. Ma logeuse en avait un excellent. Le lendemain matin, dès l'aube, je partis, équipé jusqu'aux épaules. Pelle, râteau, tamis. J'étais décidé à jouer les pilleurs de tombe pour vérifier que c'était bien le bâtard marron court sur pattes de Georges qui était enterré à côté de la cabane. Je portais également des sacs étanches et des éprouvettes. Le dernier cri de la police scientifique pour y fourrer les mégots, les capsules de la cabane, vérifier l'identité des derniers occupants. J'en avais dans le sac à dos pour près de 15 kilos. Quand je passais devant la maison du parc naturel régional du Haut-Jura, après le méandre du Doubs, Grégory Morez, l'ingénieur, me fit un signe de la main. Il s'amusa de mon harnachement. Ah ben, si tu veux faire un 8000 mètres, hein, c'est pas par là. » Grégory, en dehors de quelques rares visites de groupes scolaires, L'ingénieur devait pratiquement passer toute sa journée à draguer les stagiaires à l'accueil. C'est du moins l'impression qu'il donnait. Ce salopard semblait embellir année après année, avec sa crinière qui virait poivre et sel, pendant que les stagiaires, elles, avaient exactement le même âge à chaque rentrée. Il laissa en plan une petite blonde jolie comme un cœur qui le couvait de ses grands yeux et me lança « Allez, crédule, j'ai pitié, je te monte en 4x4. Tu devras te taper la pince tes derniers kilomètres, mais le plus dur sera fait. Julie, je reviens dans 20 minutes. Tu ne bouges pas si tu veux connaître la suite de ce qui m'est arrivé cette nuit-là sur le Spitzberg. » L'ingénieur me déposa lorsque le chemin de terre prit fin, me fit un clin d'œil et retourna baratiner sa blonde. Je l'avais questionné en route. Il n'avait jamais entendu parler de ce Georges Pelletier. Logique. Tout cela remontait à plus de 7 ans. Tout en marchant, je tentais d'organiser mes souvenirs vieux d'un an. La pluie froide, la lumière de la torche, les pierres entassées sur la tombe. Je retrouvais sans difficulté la cabane. J'étais en sueur. Le temps n'avait rien à voir avec celui de l'année précédente. Un beau soleil d'hiver inondait le sommet et faisait dorer la cime des sapins, comme une sorte d'été indien se retirant au rythme suisse. Tout juste si les primevères, les jonquilles et les gentianes ne pointaient pas. L'excitation me gagnait, comme lors de ma première planque. Cela ne m'était pas arrivé depuis très longtemps dans cette enquête. Je commençais par la cabane. Rien ne semblait avoir bougé. Il y avait d'ailleurs toutes les chances que personne d'autre que moi ne soit entré dans ce refuge du bout du monde depuis l'année précédente. Minutieux, muni de gants, je recueillis divers échantillons des détritus jonchant le sol. Je grattai un peu pour déterrer divers objets enfoncés dans la terre meuble. Mégots, capsules, papier gras. Tout cela pourrait servir, peut-être, pour retrouver la trace de Georges Pelletier, même s'il avait sans doute quitté les lieux depuis un bon bout de temps. Je sortis de la cabane. Le plus difficile m'attendait. La tombe. Je m'avançai devant les pierres amoncelées. La petite croix de bois était toujours plantée. À son pied, le jasmin dans son pot était fané. Personne n'était donc revenu fleurir la tombe pendant l'année. Pourquoi ? Pourquoi l'avoir fleurie toutes les années précédentes et pas cette année-ci ? Il faisait très chaud. J'avais retiré mon pull pour me retrouver en chemise et je suais tout de même. Le vent frais du matin se contentait du minimum. Il soufflait au sommet des grands pins, comme dans la chanson. Je me penchai devant le rectangle de pierre. Un détail étrange m'alerta, une impression bizarre, tenace. Les pierres n'étaient pas ordonnées de la même façon que la dernière fois. On les avait déplacées. Je tentai de me raisonner. Comment pouvais-je posséder une telle certitude ? J'avais observé ces cailloux un an auparavant, de nuit, sous la pluie. Je les avais remués au petit bonheur, à la lumière de ma torche. N'empêche, ce n'était pas qu'une impression. Quelqu'un était revenu. J'avais depuis un an gravé dans ma mémoire des repères, la forme même des pierres, leur volume, leur équilibre, une image précise, même nocturne. Sans me vanter, je suis assez doué pour cela. Je possède une mémoire visuelle quasi infaillible. Croyez-moi sur parole, tout avait été bousculé. Tant pis. Je n'allais pas trouver la réponse à mes questions sans me salir les mains. Je commençais à soulever les pierres avec une infinie précaution. Cela me prit une bonne demi-heure. Le soleil radieux évitait à la scène de devenir trop macabre. Je m'arrêtai plusieurs fois pour boire. Lorsque le dernier caillou fut jeté de côté, je continuai à l'appel, avec délicatesse. « Tout cela pourquoi ? » pensais-je. « Pour déterrer un cadavre de chien ? » Qu'est-ce que je pouvais espérer d'autre ? Un bébé enterré en haut du Mont Terrible ? Je creusai donc pendant presque une heure. Le soleil s'était déplacé vers l'ouest et l'ombre bienfaitrice des pins s'étendait désormais sur la tombe profanée. Le trou que j'avais dégagé était profond, plus d'un mètre. J'avais enlevé la croix, creusée en dessous aussi. Je continuai encore une demi-heure, obstiné. Au final, rien. même pas un os de chien, de chèvre ou de lapin. Rien, vous dis-je. Ce mausolée de pierre, cette croix, cette plante fanée n'était érigée que sur un sous-sol de terre vierge. Je m'effondrai, épuisé, anéanti. J'avais dépensé une telle énergie, sans aucun résultat. Je bus tout en réfléchissant. Ma chemise était maculée de boue. Dans l'ombre, en sueur, j'avais maintenant un peu froid. Je fis quelques pas pour me réchauffer tout en continuant de réfléchir, parlant tout seul, faisant la conversation au sapin. Soudain, je me mis à sourire de ma stupidité. Non, bien entendu, je n'avais pas creusé pour rien. Le pire, pour moi, pour mon enquête, aurait été au contraire de trouver un cadavre d'animal enterré. Voilà ce qui aurait terminé en cul-de-sac toute cette histoire de tombe. Si j'avais déterré les os du bâtard de Georges, qu'aurais-je fait ensuite? Rapporter les restes du chien de son frère à Augustin? Mais une sépulture vide. C'était presque inespéré, à bien y penser. Ce trou béant m'ouvrait toutes les possibilités. Je m'épongeai le front, puis sortis le sandwich au comté que Monique m'avait préparé. Il n'y avait au fond que deux explications possibles. On pouvait tout d'abord penser qu'il s'agissait d'une tombe symbolique, comme ces croix qu'on fleurit et ces bouquets qu'on dépose le long des nationales, dans les virages, à l'endroit même où un proche s'est tué dans un accident de la route. Cela se tenait. La famille d'une des victimes de l'Airbus 5403 Istanbul-Paris pouvait avoir eu envie d'effectuer un tel geste, de venir ici en pèlerinage, d'improviser une tombe, vide, faute de cadavres. N'importe laquelle des familles des 168 victimes pouvait avoir réagi ainsi. Mais alors, pourquoi ici, à 2 kilomètres, et pas sur le lieu même du drame? Pourquoi creuser cette tombe, rectangulaire, juste de la taille de celle d'un nourrisson? Il n'y avait que 2 nourrissons dans l'Airbus. Qui avait planté la croix, ramassé les pierres, arrosé le jasmin jaune toutes ces années? Un membre de la famille Vitral? De la famille Carville? Lequel? Quand? Pourquoi? Restait la seconde hypothèse. Il y avait bien un squelette sous les pierres. Quelqu'un, tous les ans, venait rendre hommage à cet être disparu, fleurir sa tombe, discrètement, secrètement. Mais cette année, en revenant, cette mystérieuse personne avait constaté que la tombe avait été fouillée. Le secret était éventé ou risqué de l'être. En suivant une telle logique, cette personne n'avait alors qu'une seule solution. Vider la tombe, déplacer les pierres, déterrer le squelette, replacer les pierres. Car les pierres avaient été déplacées, j'en avais la certitude. Cette seconde hypothèse laissait autant de questions ouvertes que la première. Pourquoi mettre en scène un tel rituel, prendre de telles précautions? Pour un cadavre de chien? Quel fou pouvait agir ainsi? Georges Pelletier? Non, ça ne tenait pas debout. Je m'épongeai encore le front. J'étais serein, calme. De nouvelles questions, un quelconque rebondissement, c'est au fond tout ce que j'attendais dans cette enquête. J'avais tout mon temps pour tester chacune de mes hypothèses. Je fouillai dans mon sac et sortis le tamis que j'avais pris soin d'emporter. Un tamis de bois et de nylon, du genre de ceux dont se servent encore les chercheurs d'or dans les rivières ou dans le sable. J'allais le passer au peigne fin, ce tas de terre. S'il restait le moindre bout d'os, de chien, de nourrisson ou de diplodocus, je le trouverais. J'y passais plus de 5 heures, sans exagérer. Un archéologue n'aurait pas eu ma patience. La récompense à mon obstination ne me fut offerte qu'au milieu de l'après-midi. Je les méritais bien, après tout, mes 100 000 francs annuels. Dans mon tamis, une fois le moindre caillou écarté du bout de l'index, une fois toute la terre transformée en poussière, brillait sous le soleil une minuscule boucle dorée, la maille d'un bijou, un ovale d'à peine 1 mm/2, en or.
Tu veux ma photo, connard ?
Marc leva les yeux. encore perdu au sommet du Mont Terrible, comme expulsé brusquement d'un rêve. Le brouhaha de la gare contrastait avec le silence de la forêt de pins où sa lecture l'avait emporté. Comme une bonne partie des voyageurs de la salle des pas perdus, il se retourna vers ce cri de démente. Il ne s'agissait que d'un incident de gare banal. Une fille hystérique insultait son voisin. Les voyageurs haussèrent les épaules et se désintéressèrent de la scène. Tous, sauf Marc. Marc avait reconnu la voix féminine. Le rêve se transformait en cauchemar. À une trentaine de mètres, devant un guichet automatique, Malvina de Carville invectivait un type derrière elle. L'homme la dépassait d'au moins trois têtes. Aucun doute. Pas de hasard, juste la folie qui s'entêtait. Elle l'avait suivie.